Merci beaucoup. 1, 2, 3. De mon côté, tout est bon. Est-ce que ça y est, vous m'entendez? Non, toujours pas. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ça y est, je pense que c'est bon. Le son circule. Je suis très heureux de me retrouver avec vous ce matin. Très heureux de pouvoir partager ces moments autour de la parole de Dieu. Merci à Johanna et puis à toute l'équipe pour ce moment aussi qu'on a pu passer dans la présence de Dieu au travers du chant, de la louange et de l'adoration. Et très heureux aussi de me retrouver ce matin avec les Choletais, puisqu'il y a une vidéo transmission qui a lieu ce matin. Donc on est heureux et on salue nos amis qui sont à Cholet. Heureux de vous retrouver avec vous. Lundi dernier, on a eu un super moment à Saumur pendant le lundi de Pentecôte. Et puis au moment où il y a eu la pause, quelqu'un qui est venu me voir et puis qui m'a dit « Moi, je te vois, mais toi, tu ne me vois pas. » Je me suis dit « Mais c'est Dieu qui me parle, là. C'est une prophétie. » Et en fait, non, c'était un ami, un frère de Cholet qui disait « Bah, quand il y a la vidéotransmission, moi, je te vois, mais toi, tu ne me vois pas. » Bon, ça m'a rassuré, parce que ce genre de parole, quand même, ça dit « Oh là, le Seigneur me parle. » Alors, c'est vrai, je ne te vois pas, mon frère, mais je sais qu'on est ensemble, on est connectés ensemble et on est heureux aussi de partager ces moments avec les chrétiens et les chrétiennes de Cholet. Vous savez que depuis plusieurs semaines maintenant, ça va faire à peu près un mois et demi qu'on aborde ce thème de être disciple de Jésus aujourd'hui. C'est un thème fondamental, bien évidemment, et on a déjà eu l'occasion ensemble avec Ulrich et Daniel d'aborder ce thème. Et on va continuer d'avancer dans notre réflexion, parce que c'est un vrai défi pour chacun d'entre nous de pouvoir répondre à l'appel de Jésus et de pouvoir vivre pleinement cet appel. Souvenez-vous, être chrétien, le mot chrétien, ça signifie être partisan de Christ, militer pour le Christ. Ça implique vraiment une consécration, d'avoir comme objectif de pouvoir là être conforme à cet enseignement de Jésus. Et il y a un texte que vous connaissez certainement, et d'ailleurs Ulrich a déjà eu l'occasion de l'évoquer dans le cadre de cette série, qui parle vraiment de ce qu'implique être un disciple de Jésus. Ce que ça implique d'être chrétien. Et ce texte, on se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 9. Et je voudrais lire ce texte avec vous pour introduire ce moment. Lorsque Jésus dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Vous vous souvenez qu'un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui suit Jésus, qui se met à l'écoute de Jésus, qui cherche à appliquer la parole de Jésus. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Ce texte, souvent, il n'est pas très bien compris. C'est surtout ce passage dans le verset où il est question de porter sa croix. Il y a quelques temps de cela, il y a plusieurs années, il y avait une dame qui me disait « Moi, ma croix, c'est mon mari ». Enfin, elle n'avait pas tout à fait formulé comme ça, elle dit « mais moi, ma croix », puis un petit signe de tête en direction de son mari. Vous voyez un peu l'idée qu'il y a derrière ça? Et peut-être que certains d'entre vous, vous mettez autre chose. « Moi, ma croix, c'est mon travail, moi, ma croix ». La croix, c'est tout ce qui nous fait souffrir dans notre vie. C'est un peu comme, et je pense quand même qu'il y a un petit peu des restes de notre environnement religieux, peut-être de notre arrière-plan religieux là-dedans, parce que la croix, ça représente ce que Dieu permet que nous endurions, c'est comme un test que Dieu nous impose pour voir si on mérite d'aller au paradis. Il y a un peu cette idée-là. Là, je suis chrétien, alors forcément, si je suis chrétien, je vais souffrir, et Dieu va me juger en fonction de la manière dont j'aurai porté ma croix. Vous savez que ça, ce n'est pas du tout l'idée et l'esprit de l'Évangile, parce que l'Évangile nous dit que c'est la croix que Jésus a portée, que c'est là que notre salut a été gagné, c'est là que tout a été accompli. On n'a rien à ajouter à ce que Jésus a accompli sur la croix. Et Jésus, lui, il a porté sa croix pour acquérir le salut pour nous. Donc ça, c'est fait. De notre côté, nous avons à croire dans ce que Jésus a accompli et à le vivre, à le saisir pour nous personnellement. Lorsque Jésus dit que celui qui, ou celle qui doit le suivre doit renoncer à lui-même et se charger chaque jour de sa croix, en fait, se charger de sa croix, c'est l'illustration de ce qui est dit au début du verset. Renoncer à soi-même. On doit renoncer à nous-mêmes et ça veut dire se charger de sa croix. Et c'est comme ça qu'on devient un disciple et qu'il me suive. C'est cette idée-là, suivre Jésus, ça implique que Jésus devienne notre exemple suprême, l'exemple suprême du disciple. Et donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est dans ce verset-là, c'est prendre exemple sur Jésus, qui a, lui, renoncé à lui-même pour que nous puissions être sauvés. Il a renoncé à lui-même pour que nous puissions bénéficier de ce salut qu'il a acquis pour chacun d'entre nous. Mais c'est une illustration du renoncement. Prendre la croix, c'est l'illustration de renoncer à soi-même en s'identifiant à Jésus. Alors, vous voyez quand même que c'est important de bien saisir et de bien comprendre le sens de ce verset. Ce passage de l'Évangile, qui n'est peut-être pas forcément le passage qu'on aime le plus souvent lire, il dit clairement qu'être disciple de Jésus, ça coûte quelque chose. Ça a un coût. Mais il y a quelque chose vraiment qu'il faut qu'on comprenne, et je voudrais vraiment partager ça avec vous ce matin, c'est que avec Jésus, quand on renonce à quelque chose, ce n'est jamais à notre détriment. Renoncer, ça veut dire perdre. Et on a du mal avec cette idée. Si je deviens disciple de Jésus, ça veut dire que je vais perdre quelque chose. Sauf que quand on perd quelque chose avec Jésus, on gagne tout. Et c'est vraiment là-dessus qu'on va concentrer notre attention ce matin. Quel est ce coût ? Qu'est-ce que ça coûte d'être un disciple de Jésus ? Et pour pouvoir aller un peu plus précisément dans cette question, on va revenir à l'appel de Simon-Pierre. C'est un texte sur lequel on s'était penché la première fois qu'on s'était vu et qu'on avait inauguré cette série sur être disciple de Jésus aujourd'hui. Et le premier point que je voudrais voir avec vous, c'est que être disciple de Jésus, c'est renoncer à ses impressions. Souvenez-vous de ce qui s'est passé. Alors qu'un jour, Simon-Pierre, ou plutôt une nuit, il était parti à la pêche, comme il le faisait tous les jours, et il est rentré bredouille. Il n'a rien ramené le matin. Absolument rien. Et j'imagine que Simon-Pierre, lorsqu'il est revenu sur le rivage du lac et qu'il n'y avait rien dans ses filets, il devait être totalement dégoûté, totalement dégoûté. Il avait travaillé toute la nuit, il avait fait des efforts toute la nuit et ses efforts n'avaient rien donné. Ça veut dire que lorsqu'il allait remettre le pied sur terre, il y avait un gros problème qui allait se poser parce que normalement, le poisson qu'il avait pêché, il devait le vendre. Et en le vendant, il devait avoir de l'argent. Et avec cet argent, il devait se verser son salaire pour pouvoir se nourrir lui-même. Et il devait aussi verser un salaire aux personnes avec lesquelles il travaillait parce qu'il avait des collaborateurs. Jacques et Jean, et André aussi, son frère qui travaillait avec lui. Mais là, il n'aura pas la possibilité de se donner ce salaire et de salarier ses équipiers. Alors qu'à cette époque, il faut bien comprendre que le salaire, il était versé chaque jour. Donc c'était une pièce ou plusieurs pièces qui étaient données chaque jour. Et voilà que, alors que Pierre est en train de repasser ça dans sa tête, alors qu'il est en train de vivre cette déception, que la foule arrive, la foule qui venait sur le bord du lac pour faire son marché, pour acheter son poisson notamment. Et cette foule arrive et elle commence à s'attrouper autour de Jésus qui est là et qui commence à prêcher. Jésus prêche, il annonce le royaume de Dieu. Il est en train là de communiquer ce message de foi, d'espérance, de joie. Et puis alors que la foule est en train de s'agglutiner autour de Jésus, Jésus demande à Simon-Pierre, il monte dans son bateau et lui dit « Éloigne-toi un peu du rivage ». Et ça a permis à Jésus de pouvoir s'adresser à toute la foule, d'adresser son message à toute la foule, sans être pressé par la foule. Et une fois que Jésus a terminé de prêcher, il va se tourner vers Simon-Pierre et il va lui dire, quand il a fini de parler, « Avance-toi plus loin, là où l'eau est profonde, puis toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. » Et vous avez remarqué la réaction de Simon-Pierre à ce moment-là ? Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. » Nous avons peiné la nuit sans rien prendre. Simon-Pierre, là, il est en train d'exprimer sa lassitude. Simon-Pierre est en train d'exprimer sa fatigue. On ne peut pas dire là qu'il déborde d'enthousiasme. On ne peut pas dire qu'il est vraiment partant par rapport à ce que Jésus est en train de lui dire. Dire, mais là, je suis fatigué, je suis en train de recoudre mes filets, je suis en train de nettoyer mes filets. Je t'assure, on a fait tout ce qu'on a pu pendant toute la nuit. On a l'impression qu'il dit, à quoi bon ? Est-ce que vraiment ça va servir à quelque chose ? Mais Simon va laisser résonner la parole qu'il venait à nouveau d'entendre, parce qu'il venait d'entendre Jésus prêcher, il venait de l'entendre communiquer cette parole, et c'est ce qui va l'amener à faire ce pas de foi.
On ne peut pas dire à ce moment-là que Pierre était animé par une foi qui déplaçait les montagnes. Vous connaissez ce verset, c'est à ça qu'on est encouragé. Mais là, ce n'est pas le cas. On ne peut pas dire là que Pierre, il a une foi qui va lui permettre de planter un sycomore dans la mer. Jésus a dit que la foi permettait ce genre de choses. Je crois qu'en fait, la foi que Simon-Pierre a à ce moment-là, c'est une foi minuscule, c'est une foi qui est grande comme un grain de moutarde, comme un grain de sénévé. Il est fatigué, il n'en peut plus, il en a marre, mais la parole de Jésus qui a été prononcée constitue pour lui un repère. Et plutôt que de se laisser gagner par ses impressions, il va se fonder sur la parole de Jésus. Il renonce à ses impressions, il renonce à ses sentiments, il renonce à ce qu'il ressent en lui-même pour mettre la parole de Jésus en pratique. Et c'est ça qui va faire la différence. S'il n'avait écouté que ses impressions, s'il n'avait pas renoncé à ses impressions, il serait resté sur le bord du rivage et il n'aurait rien pris du tout. Mais parce qu'au lieu d'écouter ses impressions et parce qu'il renonce à ses impressions et qu'il se fonde sur la parole de Jésus, il va dans la mer et le miracle a lieu et Jésus pourvoit. Et je dis ça parce que dans notre existence et dans notre vie, il y a des moments où, comme Pierre, comme Simon-Pierre, on est confronté à l'échec. On est confronté à des choses qui ne fonctionnent pas. Des choses qui ne fonctionnent pas dans notre famille, des choses qui ne fonctionnent pas dans nos relations, des choses qui ne fonctionnent pas dans notre travail. On y met toute notre énergie, on y met notre passion, mais on connaît l'échec. On connaît l'échec, on connaît la déception et on n'a pas le résultat qu'on voulait. On n'a pas le résultat auquel on s'attendait. Et peut-être que vous vous dites, mais là, moi, je suis fatigué. Je ressens cette profonde lassitude. Je ressens cette déception. Et vous sentez que vous n'avez pas assez de foi pour surmonter la déception. Mais regardez et inspirez-vous de ce que Jésus a fait à ce moment-là, parce que Jésus n'a pas regardé à la quantité de foi de Simon-Pierre. Il n'a pas regardé au niveau de foi de Simon-Pierre. Parce qu'on a l'impression que pour déplacer des montagnes, il faut une grande foi, il faut une foi level 11, 12, 13 sur l'échelle de Richter. Une foi qui fasse trembler la terre. Ce n'est pas ça. Simon-Pierre, là, il n'avait pas la possibilité. Et simplement, Jésus regarde à la qualité de notre foi. À la qualité de notre foi. À une foi qui, malgré les sentiments qu'on peut ressentir, malgré nos impressions qui peuvent être négatives, on croit dans la parole de Jésus. On croit dans la parole de Dieu. On croit que la parole qu'on entend, elle est pour nous. Et cette parole, elle va alors constituer un socle, quelque chose de solide, quelque chose qui va me permettre de dépasser et de surmonter ma déception, de surmonter ma fatigue, de surmonter ma lassitude. Cette parole, elle est remplie de promesses de bénédiction et de délivrance. Et cette parole de Jésus. Et elle s'accomplit dans notre vie quand on renonce à ce que l'on peut ressentir. Je crois vraiment que ça, c'est un élément fondamental, extrêmement important pour chacun d'entre nous afin de pouvoir continuer de marcher dans la vie chrétienne. Fondamental. Vous avez des personnes qui se font balayer dans la vie chrétienne. Je dis bien balayer, déraciner, parce que au lieu d'écouter la parole de Dieu qui est vivante, permanente, éternelle et qui a toujours une valeur pour chacun d'entre nous à chaque fois que nous l'écoutons, à chaque fois que nous la recevons, au lieu de faire cette démarche-là, ils ont écouté leurs impressions, ils ont écouté leurs sentiments. Ils se sont laissés gagner par la lassitude et ils ont dit « À quoi bon? Pourquoi continuer de jeter mon filet? Ça ne sert à rien. » Je partageais avec les jeunes hier. On a fait la clôture des réunions de jeunes, on était nombreux, c'était vraiment génial, on a vraiment passé un bon moment. Et je leur ai expliqué que lorsque je suis devenu le responsable du groupe de jeunes de cette église, je m'étais donné l'objectif avec Sandrine, c'était notre philosophie, c'était notre vision des choses. On s'est dit, ok, on accepte cette responsabilité, mais on se donne 2 ans. 2 ans pour pouvoir mettre en place une nouvelle équipe et de plus jeunes que nous, qui prendra le relais et puis qui s'occupera des jeunes et ils les entoureront, ils mèneront le groupe de jeunes. Ça a pris un tout petit peu plus de temps. En fait, ça a pris 13 ans. Alors, je vous avoue qu'il y a des moments où j'étais un peu fatigué parce que les choses que j'attendais, que j'espérais, ne s'étaient pas concrétisées. Ceci dit, je ne regrette absolument rien. Parce que le groupe de jeunes, pendant toutes ces années, alors je vous dis que j'étais responsable du groupe de jeunes pendant 13 ans, mais il y avait déjà 10 ans de service avant dans l'équipe du groupe de jeunes. Donc voilà, je suis un des plus vieux leaders de jeunes de la France, tout entière, je crois. 23 ans leader de jeunes. Mais j'ai appris tellement. Ça a été un laboratoire pour moi, ça a été vraiment une école extraordinaire. Et Sandrine, elle dirait évidemment la même chose. Et notre objectif, c'était à chaque fois de pouvoir mettre en place une nouvelle équipe. Alors, on a fait confiance à certaines personnes, on a remis la responsabilité entre ses mains des fois, et on se disait, ah, ça y est, là, on a trouvé les bonnes personnes, il y a une équipe qui se met en place. On se disait, ah, hop, on peut se retirer. Et puis, poum, la vie les conduisait autre part, sous d'autres horizons. Et il fallait recommencer. Et il y a des moments, on se dit, oh là là. Mais j'ai continué, avec Sandrine, on a continué de jeter notre filet. Et je peux vous dire aujourd'hui qu'on a attrapé un super poisson. Et je veux le partager avec vous parce que hier on a fait officiellement la passation. Et désormais, ce sera Guillaume Chauvin qui sera le leader de jeunes, le responsable. Alors, je ne le dis pas parce que je suis soulagé, mais je le dis parce que, voilà, priez pour lui, encouragez-le, il ne va pas y aller tout seul. Il va y aller notamment avec Daniel, sa fiancée. Elle a accepté de le suivre dans cette aventure. Là, elle avait encore le choix. Après le 12 août, elle n'avait plus le choix. Mais c'était bien qu'elle le fasse de manière volontaire. Mais avec Guillaume, il y a toute une équipe. Et il y a une équipe même qui s'enrichit encore. Et vraiment, ça va, c'est génial. Mais il fallait que je jette le filet. Et quand on jette le filet, le Seigneur bénit, le Seigneur pourvoit, le Seigneur donne. Alors, il ne faut pas rester sur nos impressions, renonçons à nos impressions. Deuxième point, être disciple de Jésus, c'est renoncer à ses intérêts personnels. Pour Simon Pierre, sa vie de disciple, elle commence par cette déclaration qu'on lit au verset 8 de ce même chapitre 5 de Luc, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Ils avaient attrapé tellement de poissons qu'il a fallu qu'il y ait plusieurs hommes qui tirent sur les filets et qui ramènent cette quantité phénoménale de poissons sur la terre ferme. Et quand il a vu ça, quand Simon Pierre a vu la puissance de Dieu se manifester au travers de Jésus, quand il a vu qu'à la parole de Jésus, il y a ce miracle extraordinaire qui s'est produit, face à cette puissance divine qui se manifeste, Pierre, il ne peut pas faire autre chose que de reconnaître son indignité. Il ne peut pas faire autre chose que de reconnaître sa faiblesse, son imperfection. Son impuissance même. Non, je ne peux pas être dans ta présence. Éloigne-toi de moi. Et c'est Jésus à nouveau qui va le rassurer. Regardez au verset 10, il dit, « N'aie pas peur. Désormais, tu pécheras des hommes. Je vais faire de toi un pécheur d'hommes. » Jésus a encore une parole qui incite Simon-Pierre à lui faire confiance. Et c'est ce qui permet à Simon-Pierre de faire le pas et de suivre Jésus, d'entrer pleinement dans sa vie de disciple. Il sait bien que Simon, il est bien conscient qu'il n'a pas les moyens personnel de répondre à l'appel de Jésus et de remplir cette mission qu'il lui confie. Mais il fait ce pas de la foi. Il s'abandonne à Jésus. Je suis indigne. Je suis faible. J'ai pas l'impression que j'ai les ressources pour pouvoir entrer dans cette mission que tu me confies. Mais tu me dis, n'aie pas peur. Alors je vais y aller. Je vais faire le pas de la foi. Simon est profondément touché par la parole de Jésus. Profondément touché par la parole de Jésus. Il y a en une semaine, j'ai deux personnes qui m'ont dit qu'ils doivent rentrer dans de nouvelles responsabilités. Donc une, peut-être, vous avez un peu l'idée. Avec ce que je viens de dire, vous avez peut-être une idée de qui ça peut être. Mais il y a une autre personne qui m'a dit, ah, je ne suis pas sûr d'être vraiment, d'avoir toutes les capacités spirituelles pour pouvoir entrer dans la responsabilité qui m'est confiée. Eh bien, c'est très bien. C'est très bien. Parce que c'est comme ça que Jésus accomplit des choses. Simplement, quand on se sente pas capable avec Dieu, ce n'est pas un problème. C'est juste qu'il faut qu'on entende la voix de Jésus qui résonne dans notre oreille, qui résonne dans notre cœur et qui dit « N'aie pas peur, n'aie pas peur. Tu as une mission dans laquelle tu dois rentrer, mais je vais être avec toi. Je vais t'accompagner. Tu n'as pas les ressources. Tu n'as pas tout ce que tu penses qu'il faudrait pour pouvoir entrer dans cette mission, dans cette responsabilité, mais n'aie pas peur parce que je vais être avec toi. » Et cette mission, tu vas l'accomplir grâce à moi. Il y a quelque chose qui me frappe et sur lequel vraiment il faut qu'on vienne ensemble là ce matin, c'est qu'il y a un énorme retournement de situation. Une heure avant, Simon-Pierre ne pouvait pas payer un salaire. Il n'avait rien dans les poches. Il n'avait pas pris de poisson, il n'avait rien. Il part à la pêche, il revient avec une quantité de poissons phénoménale. Ça veut dire que son chiffre d'affaires, il était multiplié par combien ? Il avait 0 euro. Il revient et son chiffre d'affaires multiplié par 10, par 20, par 30, par 100, j'en sais rien. Et alors là, il se dit, mais si je vends tout ça sur le marché, Ah, mais là c'est l'abondance. Là, merci Jésus d'avoir manifesté ta puissance pour pourvoir à mes besoins. Mais il va quitter tout cela. Jésus lui dit, suis-moi maintenant, je vais faire de toi un pécheur d'homme. Et il quitte tout cela parce que la parole de Jésus l'a rassuré. C'est extraordinaire, non? Il est capable de faire ce pas-là. Pierre, peut-être qu'il aurait pu dire à Jésus, hey, mais dis donc, c'est génial. Ça veut dire que si tu viens avec moi dans mon bateau, je peux pêcher du poisson tous les jours. Ça veut dire que jamais je ne rentre bredouille au port. Je suis assuré d'avoir une cargaison. Et il ne dit pas à Jésus, bah, écoute Jésus, si tu restes avec moi, là je suis sûr d'avoir du poisson à tous les coups, alors écoute, voilà, signe le contrat, là je t'embauche. Je t'embauche, tu rejoins mon équipe là, avec André, Jacques et Jean, je te donne tous tes sabbats, les RTT en plus. Mais viens avec moi parce que dans mon bateau, là, tous les jours avec moi, je vais avoir du poisson. C'est comme si Pierre aurait appelé Jésus. Et c'est comme s'il avait dit à Jésus, Jésus, suis-moi et je ferai de toi un pêcheur de poissons. Sauf que cette pêche miraculeuse, ce n'était pas pour le bénéfice de Simon-Pierre. Cette pêche miraculeuse, c'était le signe de la mission que Jésus voulait confier à Simon-Pierre. Regarde ce que j'ai accompli là. C'est ce que tu vas faire, mais dans le cadre de la mission que je te confie. Vous savez, je crois vraiment, et c'est là-dessus aussi que je voudrais qu'on puisse s'arrêter et qu'on puisse méditer ensemble ce matin, mais on peut faire de Jésus un pêcheur de poissons. On fait de Jésus un pêcheur de poissons quand on regarde d'abord à ce qu'il peut nous apporter. C'est quand on dit à Jésus, ah, viens, suis-moi dans mes plans, viens, suis-moi dans mes projets. Regarde ce que j'ai à cœur. J'aurais partagé avec toi, et puis viens, et puis tu vas multiplier, tu vas bénir. Ça, c'est le Jésus qui guérit, c'est le Jésus qui pourvoit, c'est le Jésus qui protège, c'est le Jésus qui préserve et qui assure mon confort de vie. C'est le Jésus qui m'aide à gagner le monde, comme disait, comme on l'a vu tout à l'heure dans ce verset de la parole, dans Luc tout à l'heure. C'est le Jésus qui nous conforte, le Jésus qui nous installe. Jésus, c'est un pêcheur de poissons et on en fait un pêcheur de poissons quand le miracle ou la bénédiction devient un but en soi. Seigneur, bénis-moi. Je vais te prier pour que tu me bénisses. Je vais jeûner, je vais prier pour que tu me bénisses. Je vais lire ta parole. Mais ce que je veux là, c'est qu'au travers de la lecture de la parole, tu m'apportes la bénédiction dont j'ai besoin là, dans ma vie. Sauf que, comme pour Simon-Pierre, la bénédiction, le miracle, c'est un encouragement à pleinement vivre sa vie de disciple. Je te permets d'avoir tout ce poisson, mais c'est pour que tu comprennes la mission dans laquelle je veux que tu rentres. Suis-moi maintenant. Et pour nous, les bénédictions que nous pouvons recevoir, et nous en avons, nous le savons, c'est un encouragement à être pleinement un disciple de Jésus. Qu'est-ce que ça indique une bénédiction? Qu'est-ce que ça indique un miracle? Ça indique que Dieu est avec nous et qu'il peut accomplir des choses extraordinaires. Et que ces choses, elles appartiennent à la mission qu'il nous confie. Parce que là, cette puissance de Dieu, elle est là pour le révéler, elle est là pour le glorifier, elle est là pour parler de lui, pour montrer qui il est. Et c'est ce que Jésus veut apprendre à Simon-Pierre en tant que disciple. Il dit, tu es mon disciple au travers de ce miracle, voilà ce que je t'apprends. Alors rentre dans cette mission. Alors que chacune des bénédictions que nous recevons ne soit pas considérée comme un but en soi. Ne commettons pas cette erreur. Élargissons nos horizons. Et que la bénédiction que nous recevons, ça allume une passion dévorante dans notre cœur. Seigneur, tu m'as donné ça, tu m'as béni, Seigneur, mais je ne veux pas le garder pour moi. Je veux que ça serve pour bénir les gens qui sont autour de moi, dans l'église, en dehors de l'église. Seigneur, tu m'as exaucé, tu m'as conduit, tu m'as guidé, mais Seigneur, que ça puisse alimenter ma foi pour pouvoir vivre encore de nouvelles choses, que ça puisse alimenter ma foi pour que je puisse aller vers ceux qui n'ont pas d'espérance, pour ceux qui ne connaissent pas ce que tu es capable de faire. Seigneur, que cette bénédiction, elle rejaillisse tout autour de moi, afin que je puisse accomplir la mission que tu m'as confiée à moi qui suis ton disciple. Être disciple de Jésus, c'est ça. Il y a un troisième point que je voudrais voir avec vous, c'est que être disciple de Jésus, c'est renoncer à la routine. Il n'y a pas beaucoup de amen, là. Hein. Renoncer à ses intérêts, renoncer à la routine. Simon-Pierre, il avait un destin tout tracé, en fait. Hein. Il aurait pu être pêcheur toute sa vie. Chaque nuit, il aurait dû mettre son bateau à l'eau. Chaque nuit, dans son bateau, il aurait dû jeter les filets dans la mer. Chaque nuit, il aurait dû tirer les filets pour ramener le poisson. Chaque nuit, il aurait fallu revenir au port du rivage. Chaque matin, il aurait dû vendre le poisson qui a été pris la nuit. Chaque matin, il fallait nettoyer les filets. Et puis, chaque jour, ça recommençait. chaque jour Simon-Pierre, il était destiné à faire ça. Simon-Pierre aurait dû faire les gestes qu'ont fait avant lui son père, qu'ont fait avant lui son grand-père, qu'ont fait avant lui son arrière-grand-père, qu'ont fait avant lui son arrière-arrière-grand-père, qu'ont fait avant lui son arrière-arrière-arrière-grand-père, qu'ont fait avant lui, ok. Parce qu'on était pêcheur de père en fils, si on était pêcheur, charpentier de père en fils, si on était charpentier. Sa vie, elle était toute tracée. Mais il y a quelque chose qui est intervenu. En fait, vous voyez un peu quand même que ce gars-là, son horizon, c'était la mer de Galilée, c'était le lac de Galilée. Et Simon, c'était juste un pêcheur, un simple pêcheur. Mais parce qu'il répond à l'appel de Jésus, il devient le disciple de Jésus et il va vivre une vie extraordinaire. La routine terminée. Il va rentrer, Dieu lui a montré comment il était puissant au travers de la pêche miraculeuse, et il va entrer dans ce miraculeux. Il va entrer dans cet extraordinaire. Si vous voulez une définition de ce qu'est un disciple, moi je dirais qu'un disciple de Jésus, c'est une personne ordinaire avec laquelle Dieu fait des choses extraordinaires. Ouais, je vais la redire. Un disciple, c'est une personne ordinaire avec laquelle Dieu fait des choses extraordinaires. Amen, ok. Parce que j'ai plus entendu Cholet la première fois dire Amen que là. Quand on devient chrétien, quand on devient disciple de Jésus, notre vie s'ouvre à de nouvelles possibilités qui élargissent nos horizons. Et quand on devient disciple de Jésus, je crois vraiment, en fait, on devient ce qu'on devrait être. Pas ce qu'on pense être, mais ce qu'on devrait être. Et c'est à ce moment-là que l'extraordinaire rentre dans l'ordinaire. Voilà. Quand on lit des textes comme ceux-là, de la vocation de Simon-Pierre, on se dit, Simon-Pierre, il va devenir un prédicateur, il va prêcher à Jérusalem, il va prêcher à Antioche, il va prêcher en Samarie. Et on se dit, mais bon, voilà, c'est exceptionnel, c'est quelqu'un qui a du caractère, qui a de l'envergure. C'est quelqu'un, à la base, mais qui est tout à fait ordinaire. C'est un pêcheur. C'est un pêcheur. Et il ne faut pas qu'on ait de complexe ou qu'on amoindrisse les choses quand on est à l'écoute de la parole de Dieu, parce que nous sommes des personnes ordinaires. Mais avec nous, Dieu fait des choses extraordinaires et peut faire des choses extraordinaires. Vous vous souvenez, quand on a commencé à parler d'être disciple aujourd'hui, je vous avais raconté ce témoignage d'une jeune qui venait de prendre le baptême et puis qui avait rencontré une de ses amies dans le tramway. Et c'est quelqu'un qu'elle connaissait dans sa ville d'origine, et qui venait à Angers pour suivre des soins, parce qu'elle était touchée par le cancer, par la maladie. Et alors qu'il y a ce bref échange là dans le tramway, entre deux arrêts, et qu'ils vont descendre du tramway, cette jeune, elle a prié pour cette amie. Ils sont assis sur le banc en face, elle a prié pour cette amie. Alors, je vous avoue que depuis que j'ai raconté cette histoire, régulièrement, je demande à cette jeune, est-ce que tu as des nouvelles de la dame pour laquelle tu as prié ? Elle dit, mais j'arrive pas à la joindre, j'arrive pas à la contacter. Je ne sais pas ce qui se passe, je revenais. Et puis elle m'a dit, là, à Saumur, lorsqu'on était là-bas, là, pour lundi de Pentecôte, elle m'a dit, ça y est, en fait, j'ai retrouvé cette dame. J'ai repris le tramway, je suis retombé sur elle, et entre les deux arrêts, ça a été très rapide, elle m'a dit qu'elle allait rentrer chez elle, elle allait rentrer dans sa ville, elle n'avait plus besoin de rester sur Angers, parce que les bilans sont positifs. La guérison s'est manifestée. L'extraordinaire se passe dans l'ordinaire. Qu'est-ce qu'il y a de plus ordinaire pour une jeune de prendre le tramway ? Non, ça vous paraît extraordinaire, vous ? C'est très, très ordinaire. Mais de l'ordinaire a jailli quelque chose d'extraordinaire. Dimanche dernier, il y a un frère qui vient me voir et puis qui me dit, j'ai une collègue, son enfant, elle a reçu une grave brûlure. Une brûlure qui était si grave et si profonde à tel point que sa veste s'était collée dans sa peau. Donc, ça avait fait une espèce d'amalgame très, très douloureux. Donc, une brûlure profonde. Et lorsque ce frère a entendu sa collègue raconter ça, elle dit, est-ce que tu permets que je prie pour ton enfant ? Elle a dit, oui, ok, très bien. Et c'est ce qu'il a fait. Et alors qu'il est retourné au travail et qu'il a rencontré sa collègue lui dit, mais il s'est passé un truc extraordinaire. On est allé voir le chirurgien dans la perspective de l'opération qui doit avoir lieu pour faire une greffe de peau, étant donné la profondeur de la brûlure, de la blessure. Il a enlevé le bandage, et quand il a retiré le bandage, il n'y avait plus rien. Enfin, il y avait juste une toute petite cicatrice. En fait, la peau s'était régénérée par elle-même. Et le mari de cette collègue, il était étonné. Il lui a dit, mais pourquoi vous faites ça ? On ne se connaît pas. Pourquoi vous faites ça ? Et ce chrétien, il a dit, comme on dit chez nous, comme on dit dans mon église, gloire à Dieu. C'est pas moi qui l'ai guéri, votre fille. Gloire à Dieu. Ça fait écho. On a eu un week-end de leaders il y a quelques semaines de cela. Et il y a un des intervenants qui utilisait ce slogan. C'est pas lui, c'est un autre pasteur. Mais qui dit, aimez les gens jusqu'à ce qu'ils vous demandent pourquoi. Aimez les gens jusqu'à ce qu'ils vous demandent pourquoi. Vous savez, l'extraordinaire peut jaillir de notre vie ordinaire. Et je pense vraiment que les uns et les autres, nous remplirons notre mission. Et nous entrerons dans ce pourquoi Jésus nous a fait, Dieu nous a fait, si nous nous programmons de cette manière. Et cette mission que nous devons accomplir collectivement, cette lumière que nous devons être, ça demande de prendre conscience que l'extraordinaire peut jaillir de l'ordinaire. Vous êtes d'accord avec moi pour ça ?
Amen.
Amen. C'est vrai, d'ailleurs, dans des situations qui sont complètement différentes. Un jour, j'ai entendu un leader de jeunes qui racontait cette histoire, et je trouve que c'est vraiment, ça reflète tellement ce que c'est qu'être disciple de Jésus. Dans le cadre de la jeunesse, il y avait vraiment eu toute une série de messages, un encouragement à la générosité, à l'attention qu'il fallait porter aux autres. Et ça, ça fait tellement partie de la vie d'un disciple. Et ce jeune, alors qu'on n'était pas en été, on était en automne, on était en hiver, ce jeune, il s'était acheté des nouvelles chaussures. Et puis, alors qu'il va à l'église, à la réunion de jeunes, sur son parcours, il voit un SDF. Et il s'aperçoit qu'en fait, ce SDF-là, ses chaussures sont dans un piteux état. C'est comme s'il n'en avait plus. Et il se dit, mais moi, j'ai assez d'argent pour pouvoir m'acheter des nouvelles chaussures. Alors, il s'est adressé à lui, il lui a parlé, il a manifesté son attention pour lui. Et il s'est déchaussé. Il a dit, tiens, voilà, ça, c'est pour toi. Mes chaussures, je te les donne. Et arrivé à l'église, à la réunion de jeunes, il était en chaussettes. Et il est arrivé, mais il était heureux. Il disait au leader de jeunes, mais j'ai trop la joie dans mon cœur. J'ai fait du bien, là. J'ai rendu service, j'ai fait preuve de générosité. Alors, il ne faisait pas pour se glorifier, mais il sentait en lui l'esprit qui manifestait cette joie-là. Il a perdu ses chaussures, mais il a gagné de la joie. Il a perdu ses chaussures, mais il a gagné une immense satisfaction, la satisfaction que les disciples de Jésus ressentent quand ils ont accompli leur mission. Souvenez-vous, quand les disciples sont partis, qu'ils ont annoncé l'Évangile, ils sont revenus pleins de joie, ils ont partagé avec Jésus les bonnes choses qui s'étaient accomplies, les bonnes choses qui s'étaient passées. Eh bien là, quand on est disciple de Jésus, quelquefois, ça peut nous coûter une paire de chaussures, mais on gagne en joie, on gagne en satisfaction et on gagne une récompense dans les cieux. C'est ce que nous dit la parole. Et on va voir un dernier point, c'est certainement celui qui va vous plaire le plus. Être disciple de Jésus, c'est renoncer à sa nature. Ça a coûté quelque chose à Pierre, comme d'ailleurs à ses collègues André, Jacques et Jean, de suivre Jésus. Suivre Jésus, ça voulait dire tout laisser. Si on revient au texte, Luc chapitre 5, verset 11, ils ramenèrent alors leur barque à terre et laissèrent tout pour suivre Jésus. La priorité pour Simon-Pierre, c'est Jésus lui-même. C'est la mission que Jésus lui a confiée. Et Pierre prend la décision de se rendre disponible pour cela. Il décide que son métier, sa famille, ses amis, ce ne seraient pas des entraves à sa mission. Alors ça ne veut pas dire qu'il a abandonné sa famille, parce qu'on sait par un autre texte biblique que Pierre emmenait son épouse dans ses déplacements quand il allait prêcher autre part. Donc ça ne veut pas dire ça, hein. Mais ça veut dire qu'il s'est consciemment donné comme objectif de répondre à l'appel de Jésus. Nous avons des affections qui sont naturelles, il faut travailler pour pouvoir gagner de l'argent, tout ça c'est ok, mais c'est faire le choix que tout cela ne soit pas des entraves pour me permettre d'entrer dans l'appel de Jésus, pour me permettre d'entrer dans cette mission qu'il me donne. Simon-Pierre, il va faire ce pas, et pourtant il n'est pas parfait, hein. C'est pas un gars parfait. L'Évangile nous dit qu'il va commettre plusieurs erreurs. Et ça montre bien qu'il avait toujours besoin de changer. Ça montre bien qu'il avait constamment besoin de s'améliorer. Et Pierre, à de nombreuses reprises, il a fallu qu'il combatte contre lui-même, qu'il combatte contre sa nature, contre ce qui l'influençait dans sa personnalité. Et c'est ce qui se passe dans l'épisode bien connu, lorsque Jésus va s'adresser à ses disciples et leur dit « Mais vous savez, préparez-vous, parce qu'on va monter à Jérusalem. Et là, quand on va être à Jérusalem, je vais être arrêté par les autorités et je vais souffrir, on va me battre et je vais mourir, on va me mettre en croix, mais je vais ressusciter. » Et vous connaissez la réaction de Pierre à ce moment-là. Il va dire « Mais non, ça c'est pas possible. » C'est ce qu'on lit dans Matthieu au chapitre 18. 16, pardon, oui. Et il dit, il prend Jésus à part et il lui fait des reproches. Il lui dit, mais Dieu t'en garde, Seigneur, dit-il. Non, cela ne t'arrivera pas. C'est comme Simon-Pierre venait voir Jésus, il dit, mais attends, mais je te rappelle que tu es le Messie. Donc le Messie, ça veut dire que tu es le roi, que tu es destiné à régner. Donc quand tu vas venir à Jérusalem, ce n'est pas ce que tu es en train de dire qui va t'arriver. Ce n'est pas possible, ce n'est pas imaginable. En plus, nous, les apôtres, on va régner à tes côtés. Donc non, ce n'est pas ça qui va t'arriver. Et puis, qu'est-ce que dit Jésus ? Jésus se retourna et dit à, et dit à Pierre, « Va-t'en loin de moi, Satan, tu es un obstacle sur ma route, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les êtres humains. » Tu penses comme les êtres humains. Ça veut dire, et c'est ce que Jésus souligne, c'est ta nature qui s'exprime, c'est ce que tu penses qui s'exprime. Notre nature, elle veut que les choses se passent comme on veut. Notre nature, elle veut que les choses se passent comme on a envie. Elle ne veut pas qu'on renonce à nous-mêmes, notre nature. Et là, Pierre, il n'était pas prêt à renoncer à lui-même. Je dis, non, moi, si je suis disciple de Jésus, ce n'est pas pour vivre des trucs comme ça. Moi je veux la victoire, je veux régner. Mais Simon-Pierre, il est repris par Jésus. Et c'est d'ailleurs très intéressant de voir que dans les versets qui suivent, après cet épisode-là, dans l'évangile de Matthieu, l'appel à renoncer à soi-même est placé juste après, à partir du verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Donc ça veut dire que pour être disciple de Jésus, il faut renoncer aussi à notre nature, à ce qui s'exprime naturellement en nous et qui ne cadre pas tout à fait avec la volonté, le plan de Jésus. Et en se laissant reprendre, Pierre montre qu'il est prêt à se laisser instruire comme un disciple se laisse instruire par son maître. Il montre qu'il est prêt à se laisser façonner. Et il accepte de renoncer à ses certitudes. Et c'est ce qui va lui permettre de s'améliorer, de gagner en perfection, ce que la Bible appelle la sanctification. Être saint, ça ne veut pas dire être au-dessus des autres, parce que ça, c'est ce que l'influence de notre culture aussi. Non, être saint, ça veut dire s'améliorer. Ça veut dire toujours plus ressembler à Jésus. Et c'est notre défi à chacun. Là, Simon-Pierre pouvait se dire, oh là là, moi je voulais gagner un trône, et puis là, c'est une croix qu'on me propose. Pas cool. Sauf qu'en acceptant de tout perdre, Pierre a tout gagné. Et ça n'a pas été le cas de tous les disciples. Dans les 12, il y en a un qui s'appelle Judas. Ça n'a pas du tout le même topo. Lui, Judas, il n'a pas eu le souci de renoncer à sa nature. Et c'est vraiment le contre-pied et le contraire de ce qui se passe avec Simon-Pierre. Vous savez que Judas, il a pris la décision de livrer son maître pour 30 pièces d'argent. Et on s'est bien souvent interrogé sur les motivations de Judas. Mais celle qui apparaît le plus clairement dans les textes du Nouveau Testament, c'est qu'il aimait l'argent. Donc sa nature le poussait, le conduisait à vouloir gagner de l'argent. Il est prêt à aller jusqu'à livrer son maître pour pouvoir répondre à sa nature. Voilà vers quoi sa nature le poussait. Il profite de la situation pour s'enrichir. Et en faisant cela, qu'est-ce qu'il fait ? Il cherche à gagner le monde. Il n'est pas intéressé par la mission, ou il n'est plus intéressé par la mission. Il cherche son avantage, il reste centré sur lui. Et il a fait partie des disciples, mais il n'a pas renoncé à lui-même. Et en voulant tout gagner, il a tout perdu. C'est important de se poser cette question, c'est qu'est-ce que je veux gagner dans mon service ? Il y a des années et des années de cela, il y avait une personne dans l'église qui a vraiment été engagée, du moins qui voulait s'engager, qui se mettait vraiment à disposition pour pouvoir accomplir des choses dans l'Église. Et puis, dans une conversation, un jour, je l'entends dire, « Moi, tous les week-ends, je pars en boîte. Je pars à la discothèque parce que pour moi, c'est le moment où j'évacue. J'ai les pressions dans la semaine et là, de danser, de virevolter, là, je me décharge. » Je me souviens de ces mots qu'elle a dit. Moi, j'ai besoin de ça. Je me suis un petit peu interrogé quand même sur les motivations. Je me dis, tu es chrétienne, tu es baptisée dans le Saint-Esprit, tu as la possibilité de te renouveler régulièrement par la parole, par la présence, par les temps qu'on a ensemble, et tu me dis que tu as besoin une fois par semaine d'aller en discothèque. En discothèque, elle a rencontré quelqu'un avec qui elle a commencé à faire sa vie. Et le service, la mission de Jésus, terminée. Elle a voulu gagner quelque chose. Et en réalité, elle a tout perdu. Et heureusement, je n'ai pas que des exemples comme ça. Mais je pourrais vous donner des tas d'autres exemples aussi de personnes qui ont décidé de renoncer à eux-mêmes, de renoncer à leur nature. Je pourrais vous donner l'exemple d'un jeune qui, il y a quelques années, était venu me voir. Et puis, il est venu me voir, il a demandé un rendez-vous avec moi, et il a dit, Xavier, écoute, j'ai un truc là, il faut que je te le dise. En fait, moi, mon problème, c'est la pornographie. Il était engagé déjà dans l'Église, lui aussi. Il avait envie de servir le Seigneur. Il faisait un cœur vraiment extraordinaire. Mais sauf que ce qui s'était passé, c'est que ça avait commencé au collège. Un jour, il faut qu'on parle de ça, hein. Un jour, au collège, il y a des camarades qui sont venus avec des images de ce type-là, des images de ce genre-là. Et à partir de ce moment-là, ça a été impossible pour lui de se dégager de ça. Et donc forcément, quand il se retrouvait seul face à son ordinateur, très facilement, il alimentait ça. Sauf qu'il a quand même avancé dans sa vie spirituelle, il s'est engagé, il a pris le baptême, mais c'était toujours là. Et il n'en parlait pas, parce que ce n'est pas facile de parler de ces choses-là. Enfin, si on en parle, on craint le regard des autres, on craint d'être jugé. Et puis, comme il devait se marier, il a dit, il faut que j'en parle. Alors, il a renoncé à lui-même. Il a dit, je vais prendre un rendez-vous avec le pasteur. Et je vais en parler. Ça lui a coûté quelque chose. Il a renoncé à lui-même. Il dit, moi, je veux pas, j'en ai marre, je ne veux pas garder ces images dans ma tête. Je ne veux pas projeter ça sur ma future épouse. Je ne veux pas vivre les choses comme ça. Je veux faire taire ma nature, je veux renoncer à ma nature. Et parce qu'il avait fait cette démarche-là, en quelques semaines seulement, il a été libéré. Il a été libéré. Peut-être qu'il avait le sentiment qu'il allait perdre quelque chose, sa dignité. Et en fait, il a tout gagné. Il a tout gagné. Et cette personne-là, je peux vous garantir qu'aujourd'hui, c'est de la bombe pour le Seigneur. C'est un choix quotidien de renoncer à soi-même. Souvenez-vous de la précision qui est donnée dans Luc, là, au chapitre 9, au verset 23. Quelqu'un qui veut venir après moi, il faut qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge. Il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suit chaque jour. C'est une décision que nous sommes appelés à renouveler. Les choses, elles ne viennent pas et ne descendent pas du ciel comme ça d'un seul coup. Notre volonté, elle entre en jeu et il faut qu'on fasse ce choix d'être un disciple, de renoncer à soi-même. Quand on renonce à soi-même, c'est jamais pour perdre, c'est toujours pour gagner. Ce texte-là, quelquefois, il fait peur, il met mal à l'aise, mais quand on renonce à soi-même avec Jésus, c'est toujours pour gagner quelque chose. C'est pour gagner une relation plus profonde avec Dieu. C'est pour gagner un meilleur caractère. C'est pour gagner de meilleures relations. C'est pour gagner des personnes à Christ, partager notre espérance. Être disciple de Jésus, c'est renoncer à toute compromission. Mais si on fait ce choix, ça veut dire forcément que ça va nous coûter quelque chose. Il va falloir qu'on renonce à quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça peut être, ce coup? Ça peut être notre réputation. Hein, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra. Ah, j'ai du mal à m'afficher comme chrétien parce que j'ai le sentiment que je vais être jugé, je vais être rejeté. Et pourtant, il y a tellement de besoins autour de moi. Je sais que l'Évangile pourrait faire du bien à cette personne. Mais ça va me coûter quoi? Les gens, ils vont savoir que je suis chrétien. Ça peut me coûter ma réputation. C'est quoi le coût? Qu'est-ce qu'on est prêt là à payer? Qu'est-ce que ça va nous coûter d'être disciple de Jésus? Être éclairé sur les raisons profondes de mes dysfonctionnements? Pourquoi est-ce que je recherche continuellement à être aimé? Pourquoi est-ce que je cours après la reconnaissance? Pourquoi est-ce que je cours après l'amour? Pourquoi est-ce que j'ai des relations si difficiles? Pourquoi là ça coince là dans mes relations avec mes enfants, avec mes amis? Où est le problème? Pourquoi est-ce que je suis constamment animé de ce désir de vouloir tout diriger, tout contrôler, tout maîtriser? Pourquoi est-ce que je ressens ce profond sentiment d'insécurité? Ah, ça coûte d'aller voir, ça coûte de récapituler son histoire pour essayer de comprendre d'où viennent ces choses. Parce que si on veut en être libéré, et pour gagner, il faut aller profond, il faut aller. Et ça veut dire sans doute en parler, ça veut dire se confier à quelqu'un qui a la maturité, à quelqu'un qui a vraiment la capacité de pouvoir m'accompagner. Ça coûte de prendre du temps pour lire la Bible. Ça coûte de prendre du temps pour prier. Ça coûte de prendre du temps pour se former. Ça coûte d'apprendre à écouter les gens qui sont autour de moi et qui sont dans le besoin. Ça coûte de s'arrêter pour dire, ok, confie-toi, parle-moi, t'as envie, t'as besoin, c'est le moment. Ça coûte la générosité. On va conclure en lisant ce texte dans la première lettre de Pierre,
au chapitre 1. On va lire les versets 14 à 16 et 22-23.
Pierre dit, celui qui a suivi Jésus et qui a répondu à l'appel de Jésus, « Obéissez à Dieu et ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois, quand vous étiez encore ignorant. Mais soyez saints dans toute votre conduite, tout comme Dieu qui vous a appelé est saint. En effet, l'Écriture déclare « Soyez saints, car je suis saint. » Et Pierre continue un peu plus loin, au verset 22. « Vous vous êtes purifiés en obéissant à la vérité, par l'Esprit, pour vous aimer sincèrement comme des frères. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non de père mortel, mais grâce à une semence immortelle, grâce à la parole vivante et éternelle de Dieu. » Renoncer à soi-même, nous dit Pierre, c'est sortir de l'ignorance par l'obéissance. C'est faire le choix quotidien de s'améliorer. C'est faire le choix quotidien de ne pas rester là où j'en suis. Renoncer à soi-même, c'est laisser germer la parole en nous pour qu'elle porte du fruit. Nous naissons de nouveau grâce à cette semence immortelle, cette parole qui est vivante et éternelle, cette parole de Dieu. Si je jette une semence en terre, il manque un élément pour qu'elle pousse. Si on la jette en terre, il ne se produira rien du tout. Il manque un élément. Cet élément, vous l'avez compris, c'est l'eau. Il faut que la semence, elle soit arrosée, il faut qu'elle trouve une bonne terre et qu'elle soit arrosée. Et à ce moment-là, il va y avoir du fruit qui va surgir. La semence, elle va grandir, elle va porter du fruit. Et dans le Nouveau Testament, on a vu ça lundi dernier pour tous ceux qui étaient à Saumur et qui ont été à ce lundi de Pentecôte. Souvent, c'est l'image du Saint-Esprit. Et vous avez un petit commentaire qui a été introduit dans le texte de Pierre lorsqu'il dit « Vous êtes purifiés en obéissant à la vérité par l'Esprit ». Alors, c'est sans doute pas Pierre lui-même, l'auteur originel, qui a mis ça, parce qu'on ne trouve pas ça dans tous les manuscrits. Mais ce commentaire, il est bon parce qu'il fait écho à d'autres textes qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Ça peut faire écho à Galates 5,16 quand il dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature ». Ça peut faire écho à Jésus qui dit « Ma parole, elle est esprit et vérité. Ma parole, elle a besoin d'être accompagnée par le Saint-Esprit pour qu'elle puisse produire quelque chose. » Si nous n'écoutons que la parole, ça peut rester très sec. On est très soucieux de lire la parole et on dit qu'il faut lire la Bible. Mais ça peut rester sec et ça peut être comme une semence qui ne portera pas de fruit. On a eu un don spirituel tout à l'heure qui reprenait cette image de l'eau. L'eau, c'est la vie. Et Jésus a dit, celui qui croit en moi verra jaillir de son sein des fleuves d'eau vive. Celui qui croit en moi et qui recevra le Saint-Esprit, il est comme un vase qui va déborder, qui va déborder, qui va déborder. Vous avez soif, venez à moi. C'est ce que Jésus a dit. Vous savez, les uns et les autres, on est un peu comme ce verre, ce récipient. Vous voyez que dans le récipient, il y a des choses qui ne sont pas très propres. Il y a comme des espèces de dépôts qui se déposent, qui prennent place dans notre cœur. Des choses qui ne sont pas très belles. On a évoqué quelques exemples tout à l'heure pendant le partage. Et sur ces choses qui nous salissent, sur ces choses qui sont en nous, vous pouvez mettre des noms, des mots. Moi, je sais, je peux mettre des mots sur ce qui est en moi, là, et qui me salit, qui n'est pas propre, qui fait du dépôt. Et le problème, souvent, c'est que quand on vient dans la présence de Dieu, comme on le fait dimanche après dimanche, on fait juste ça. Je viens le dimanche, je rentre dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit agit, et puis voilà. Et puis j'attends le dimanche d'après, ou j'attends le rassemblement d'après, et puis voilà. Mais je crois qu'il y a un problème. C'est que le dépôt, tout ce qui nous salit, ça reste toujours. Pourquoi ça reste toujours? Parce que quand on fait comme ça, quand on est touché par le Saint-Esprit, eh bien, ça n'enlève pas ce qui est sale en nous. À quoi nous encourage la Bible? À quoi nous encourage Jésus? À quoi nous encourage l'apôtre Paul? Il nous encourage à être touchés par le Saint-Esprit? Il nous encourage à être remplis du Saint-Esprit. Et c'est ça qui fait toute la différence. Parce que si je suis rempli du Saint-Esprit, ce qui va se passer, c'est que tout ce qui est sale en moi, tout ce qui me salit, tout ça, ça disparaît. Et alors s'accomplit dans mon cœur et dans ma vie ce que Pierre a dit, je suis purifié, pas simplement par la parole seule, mais parce que l'Esprit peut accomplir en moi. Il n'y a plus rien. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Frères et sœurs, je voudrais qu'on n'ait pas peur du Saint-Esprit. Je voudrais qu'on n'ait pas peur d'ouvrir notre cœur à Jésus. Je voudrais qu'on n'ait pas peur d'ouvrir notre cœur à celui qui a envoyé son esprit. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Jésus au milieu de nous. Et ça, il peut l'accomplir dans notre cœur et dans notre vie. Mais il nous faut accepter, désirer être rempli du Saint-Esprit. Il faut faire ce choix consciemment, volontairement. Alors, je voudrais vraiment qu'on se recueille de manière à ce que l'Esprit puisse accomplir son œuvre en nous. On va être sérieux avec la parole de Dieu. On se donne comme objectif d'être un disciple de Jésus. On veut aussi mesurer tout ce que ça implique. Et ça nous coûte quelque chose. Je voudrais vraiment faire un premier appel à toutes les personnes qui sont fatiguées, qui sont lassées, à toutes les personnes qui n'en peuvent plus, à toutes les personnes qui en ont marre et qui se disent « Mais à quoi bon jeter mon filet ? Ça ne va rien donner. Maintenant, j'en peux plus. » Et peut-être même que parmi vous, il y en a certains qui se disent « Je crois que je vais laisser tomber. » Je vais laisser tomber parce que vous vous laissez gagner par ce que vous ressentez. Vous vous laissez gagner par vos impressions. Et là, vous avez besoin d'être renouvelé dans votre foi, dans la parole de Jésus, dans la parole de Dieu. Cette parole, c'est une mine de promesses et une mine de bénédictions pour vous. Alors, quel que soit l'endroit dans la vie où vous êtes stoppé, quel que soit le moment là dans votre existence où vous pensez que vous ne pouvez plus avancer, ou parce que la lassitude et vos impressions négatives vous ont gagné, laissez-vous remplir du Saint-Esprit, laissez-vous toucher ce matin. Répondez à cet appel, parce qu'au travers de cette situation, je crois que le Seigneur prépare quelque chose. Comme pour Pierre, il a préparé son entrée dans une mission. Et pour vous, là où vous êtes bloqué, ce n'est pas définitif. C'est juste que là, le Seigneur va donner cette bénédiction, mais pas pour que nous la considérions pour elle-même, mais pour qu'elle vous donne d'entrer dans votre mission. Pour qu'elle vous donne d'entrer dans quelque chose de nouveau, quel que soit le domaine, que ce soit celui du service, que ce soit celui, le domaine professionnel, que ce soit le domaine familial, j'en sais rien. Mais entendez cet appel de Jésus, entendez cet appel du Seigneur, entendez l'appel de l'Esprit maintenant, qui veut souffler, qui veut vous communiquer cette parole pour dire, tiens bon, prends courage, continue, il y a quelque chose qui vient pour toi. N'en doute pas, ne te laisse pas gagner par tes impressions. Laisse-toi remplir du Saint-Esprit. Laisse-toi renouveler cette foi parce que cette foi, elle va t'amener à avoir une relation de qualité avec moi. Cette parole, c'est celle qui me révèle, c'est celle qui montre que je t'aime. C'est celle qui montre que j'ai envie d'accomplir des choses au travers de toi, des choses en toi. C'est celle qui montre que je veux accomplir des choses dans ta vie encore. Alors laisse-toi toucher par cette parole ce matin. Et si tu as ce pas de foi à faire en te levant, n'hésite pas à le faire. Si tu veux faire un autre pas de foi en venant devant, n'hésite pas à le faire. Il faudrait que le Seigneur aussi, le Saint-Esprit, nous interpelle de façon à ce que nous puissions renoncer à la routine. Il y a un appel pressant à ce que nous puissions voir l'extraordinaire surgir dans notre ordinaire. Mais je pense que le Saint-Esprit veut nous dire que tu ne te sens pas capable, tu crois que c'est pour les autres, tu crois que l'Évangile, toutes ces choses-là, c'est pour des gens comme les pasteurs, c'est pour les gens comme des missionnaires, ce que font Céline, Fernando, ce que font David, ce que font toutes ces personnes-là. Moi, je ne peux pas le faire. Mais ce n'est pas forcément ça que Dieu va te demander. Il va te demander d'entrer dans une mission qui est là où tu es, avec ce que tu es. Mais il faut simplement aspirer à ce que cet extraordinaire rentre dans notre ordinaire. Et on va voir Dieu accomplir, on va voir Dieu se glorifier. Je demandais à Guillaume, à Dominique, si vous voulez bien venir pour prier pour les personnes qui se sont approchées. Je ne sais pas si Philippe est là. Noël, tu peux venir aussi. Seigneur, fais jaillir cet ordinaire, cet extraordinaire dans notre ordinaire. Nous ne voulons pas avoir peur, nous ne voulons pas te limiter parce que nous croyons, Seigneur Jésus, que tu veux accomplir et que tu es capable d'accomplir de grandes choses. On peut se sentir incapables, nous, mais on voit que ce n'est pas grave. Au contraire, c'est quand nous ressentons notre impuissance que toi, tu peux faire de belles et grandes choses. Simon Pierre était tellement ordinaire, mais tu lui as fait vivre des choses extraordinaires. Seigneur, vois ceux et celles qui veulent répondre à cet appel. Et si c'est votre désir, n'hésitez pas là aussi à lever votre main, à vous lever à votre place. Si vous voulez voir, entrer dans cette dimension et accomplir des choses qui sont à notre portée. Ce que je vous ai raconté tout à l'heure, c'est des choses qui sont passées à Angers. Ce n'est pas des choses qui sont passées de l'autre côté du monde, à l'extrémité du monde. Mais à Angers, l'extraordinaire a surgi dans l'ordinaire d'une femme et d'un homme qui se sont mis à la disposition du Seigneur, qui ont fait ce choix d'être disciples de Jésus. Alors si vous voulez voir cet extraordinaire jaillir, réclamez-le, levez vos mains vers le Seigneur, levez-vous, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, ne craignez pas. C'est un pas de foi que Jésus nous appelle à faire. Et bien sûr, je veux adresser cet appel à tous ceux qui combattent contre leur nature. Et peut-être que parmi nous, il y en a certains qui luttent depuis des semaines, des années, des mois, que sais-je, contre un élément, quelque chose qui dans leur nature reste là, qui reste présent, qui ne s'en va pas. Et je voudrais vraiment vous appeler à faire ce pas de foi, à avoir ce face-à-face. Là encore, vous avez la liberté, mais peut-être que ça va vous coûter. Ça va vous coûter de vous lever, ça va vous coûter d'affronter. Alors, je vais vous demander de baisser la tête, je ne veux pas que donner l'impression d'un quelconque jugement qui soit porté sur vous. Mais malgré cela, malgré les têtes baissées, ça peut vous coûter de vous lever, ça peut vous coûter de vous approcher. Ça peut vous coûter de demander cette prière par rapport à ce combat que vous êtes en train de mener. Vous n'êtes pas obligé de le dire, vous soyez vraiment libre. Peut-être simplement le pas de foi que vous avez à faire, c'est de vous présenter et de demander au Seigneur sa sainteté, cette purification. Demandez d'être rempli du Saint-Esprit. Mais n'hésitez pas à le faire parce que le Seigneur, là aussi, son désir, c'est d'accomplir cette œuvre dans votre cœur et dans votre vie. Alléluia, Jésus. On va prier ensemble. On va s'associer à la prière de ceux et celles qui se sont approchés. On va lever les mains vers le Seigneur. Seigneur, nous réclamons ta puissance ce matin. Nous réclamons ton action, Seigneur Jésus, parce que, Seigneur, si nous regardons à nous-mêmes, nous sommes bien faibles. Et nous n'avons pas la possibilité ni d'entrer dans cette mission, ni d'aller plus loin dans notre vie. Nous n'avons pas la possibilité de faire disparaître ce qui en nous est sale. Ce qui nous handicape, ce qui en nous crée la honte. Mais c'est possible avec la puissance de ton esprit. C'est possible, Seigneur Jésus, avec cette eau qui vient, cette eau qui déferle, cette eau qui nettoie. Seigneur, nous te réclamons la puissance et l'œuvre de ton Saint-Esprit ce matin. Nous voulons ouvrir grand notre cœur à cela. Et nous voulons nous joindre en particulier à la prière de nos frères, de nos sœurs qui se sont levés, de nos frères et de nos sœurs qui disent « Je suis prêt, je suis là ». Envoie-moi maintenant. Je veux rentrer dans le plan que tu as pour moi. Je veux passer cette étape, je veux passer ce cap. Sandrine, est-ce que tu peux venir prier aussi, s'il te plaît? Est-ce que Eva est là? Fred et Eva, ils sont là? Alléluia. Seigneur Dieu, envoie et souffle, Seigneur Dieu, par ton esprit. Envoie cette eau vivifiante, Seigneur. Tu vois, ceux et celles qui sont là, ils ont dit « J'ai soif, j'ai soif. » Et ils répondent à l'appel que tu as prononcé en disant « Que tous ceux qui ont soif viennent à moi. Que tous ceux qui ont soif viennent à moi afin que je puisse accomplir ce miracle et que des fleuves d'eau vive jaillissent de leur sein. Qu'ils soient comme des vases qui débordent et qui permettent à ton esprit d'accomplir ce miracle. Alléluia, Jésus, Seigneur Dieu. Seigneur, bénis nos amis, bénis nos frères, bénis nos sœurs, bénis ceux qui décident d'être des disciples aujourd'hui, bénis ceux qui ne veulent pas simplement être touchés, mais qui veulent être remplis de ton esprit, bénis ceux qui veulent être renouvelés, qui veulent être restaurés, bénis ceux qui en ont marre d'être confrontés à leurs défauts, bénis ceux, Seigneur, qui t'ouvrent grand leur cœur pour que tu puisses avoir la liberté d'agir. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu, tu nous as dit que tu ne nous laissais pas orphelins, mais que tu as envoyé le Saint-Esprit pour accomplir une œuvre grande et merveilleuse, pour être chaque jour à nos côtés, pour marcher à nos côtés, pour être en nous, pour agir en nous. Jésus, étends ta main, Seigneur, viens souffler, viens répandre ton esprit. Viens purifier, viens nettoyer, Seigneur. Viens désaltérer. Alléluia. Viens renouveler ce matin. Jesus and la baria lo so de chi da la baka da lo so. Ko ba la ba da ba ba ka da lia ba chi da lia la san da ba chi. O do lo ba la ka da lia la san da chi da lia so. Seigneur, je réclame ta bénédiction, Seigneur, sur tous ceux, Seigneur, qui font ce pas de foi ce matin. Et je te demande, Seigneur, que cette bénédiction, ils ne la gardent pas pour eux, mais qu'elle puisse alimenter leur foi et leur désir, Seigneur, de partager leur foi. Qu'ils ne puissent pas garder ce que tu as donné ce matin et ce que tu vas donner encore les jours qui viennent, mais que tout cela rejaillisse sur leur entourage. Que les gens dans leur famille, sur leur lieu de travail, dans leur voisinage, voient la différence et qu'ils se disent, il y a quelque chose que je n'ai pas, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et qu'ainsi, Seigneur Dieu, ils puissent être ces lumières, ils puissent à leur tour désaltérer et bénir tous ceux qui les entourent. Seigneur, que ta bénédiction repose sur ces amis, que ta bénédiction repose sur cette église, Seigneur. Nous te réclamons, Seigneur Dieu, là, ton esprit, viens agir, réponds à la prière de la foi, Seigneur. Nous voulons être des vases, Seigneur Dieu, entre tes mains, Seigneur, pour être remplis de toi. Nous ne voulons pas notre caractère, Seigneur, imparfait, mais nous voulons ta perfection en toi. Alléluia.